Radio Okapi. Bon réveil et bienvenue à l'écoute de ce radio-journal dont voici la une. Près de 3000 assaillants Codeco prêts à déposer les armes. Ces combattants de l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, dit Codeco, manifestent leur volonté de cesser immédiatement les hostilités. Ils ont quitté la brousse pour s'installer dans les localités Lojo, Debou et Tanguy dans les secteurs de Walendupiti en territoire de Djougou. Chute du dollar face au franc congolais à Kinshasa, dont la matinée de lundi, un dollar américain se changeait à 1600 francs congolais pour les uns et pour les autres 1500 voire 1400 francs congolais dans la partie ouest de Kinshasa. Ce mouvement qui s'observe depuis le début du week-end passé s'est donc accéléré hier dans la soirée. Lancement au Kasaï par le gouvernement provincial d'un projet d'encadrement des jeunes filles en divers métiers. Invitée de Radio Okapi ce matin, Madame Pauline Mbidi, ministre provinciale du genre et famille que vous écouterez à la fin de cette édition, explique que les bénéficiaires de ce projet vont apprendre notamment la coupe et couture, la fabrication des savons et du pain. Je le disais à l'instant, plus de 3000 miliciens de l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais, URDPC, dit Codeco, sont prêts à déposer les armes pour répondre à l'appel du président de la République. Ce dernier a envoyé il y a environ un mois une délégation composée d'anciens chefs miliciens de cette province pour sensibiliser cette milice à adhérer au processus de paix. Selon le chargé de communication de cette délégation, ces miliciens sont déjà regroupés dans plusieurs entités en attendant le programme de démobilisation. Martial Kizia Biamongo.
Ces combattants de l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais URDPC, du Codeco, manifestent leur volonté de cesser immédiatement les hostilités. Lourdement armés, ils ont quitté la brousse pour s'installer dans les localités Lojo, Debou et Tanguy, dans les secteurs de Walendupiti en territoire de Djougou. Pichu Iribi, chargé de communication de cette délégation, indique que ces miliciens ont répondu à l'appel du chef de l'État. Il déplore cependant les manques d'infrastructures d'accueil pour leur hébergement. Il ajoute qu'il se pose également les problèmes des prises en charge alimentaires de ces miliciens. Pichu Iribi demande aux fils et filles de l'Ituri de soutenir ces processus pour la restauration d'une paix durable dans cette province. De leur côté, certains habitants craignent que ces hommes armés ne se rabattent sur eux pour leur survie en se livrant au pillage et extorsion de leurs biens. Pour sa part, la société civile de Djougou salue ces avancées qui donnent l'espoir de la fin des hostilités. Bougnard, Martial, Kizabiamongo, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, cette fois-ci, 43 groupes armés actifs et 10 450 miliciens Maïmaï sont concernés par le processus de désarmement et démobilisation. Au cours de ce processus, près de 2000 armes à feu devraient être récupérées. Cette cartographie a été faite au cours du dialogue de vérité qui s'est tenu la semaine dernière à Goma. D'après Jacques Katembo Lukongo, coordonnateur de la commission interprovinciale de désarmement et démobilisation et réinsertion communautaire, l'accélération du processus de démobilisation et désarmement de tous les groupes armés du Nord Kivu a été décidé au cours de ce dialogue. Jacques Katembo a été joint par Alicia Kapisa depuis Butembo.
Par rapport aux groupes armés Maïmaï qui sont dans les cantonnements, l'Assemblée a estimé qu'on doit accélérer le processus parce que on attendait d'abord qu'on puisse avoir une cartographie de tous les groupes armés. On sait aujourd'hui avec précision que nous avons 43 groupes armés dans le Nord Kivu. Nous attendons de mobiliser une affaire de 10 450 personnes détenteurs d'armes, plus de 2000 armes que nous devons ramasser dans le territoire. Le processus va être lancé. Nous allons commencer par les groupes armés qui sont déjà prêts. Ici à Goma, il y a déjà des chefs de groupes armés qui sont avec nous ici. Nous avons aussi des groupes armés qui sont en attente. Tous les groupes armés au Nord Kivu doivent attendre ce processus, ne doivent plus commettre des exactions parce que l'État est pour le désarmement. Ces groupes-là doivent attendre, doivent patienter parce qu'un gouvernement responsable ne peut pas précipiter le programme. Il fallait d'abord qu'on commence la planification et nous espérons que d'ici quelques temps, on va commencer maintenant le désarmement.
Plus de 70 cas de violations et abus des droits humains ont été documentés depuis le mois de juillet dernier à Beni par la CRDH, la Convention pour le respect des droits humains. Dans une déclaration publiée dimanche, cette organisation de défense des droits de l'homme, qui parle des cas d'assassinat, d'extorsion et de cambriolage de la population, dénonce également les conditions de détention des personnes vivant avec handicap dans la prison centrale de Kamboyi de Beni. On écoute maître Eli Kionga, son chargé de monitoring, dont ses propos recueillis par Martial Papimoukeba.
La CRDH Beni a documenté plus de 70 cas de violations et abus des droits humains. Ainsi, à ville de Beni, nous avons enregistré 3 cas d'assassinat, des cas d'extorsion, cambriolage et consorts. La CRDH dénonce fermement les conditions carcérales dans lesquelles se trouvent les personnes vivant avec handicap à la maison pénitentiaire de Beni Kangwai, où plus de 60 handicapés sont traités dans les mêmes conditions que les autres prisonniers, sans tenir compte des mesures spécifiques qui leur sont reconnus par les traités internationaux ratifiés par la RDC. La CRDH condamne les massacres de plus de 30 personnes tuées par le rebelle ZADF. La CRDH recommande à l'auditorat militaire de mettre une lumière dans le procès de l'assassinat de l'infirmier de Rwangoma, M. Kambale Siva Sima Joseph, au corps des infirmiers de s'apaiser en attendant la suite des enquêtes, en fait de limiter les dégâts, surtout que leur travail implique directement la vie des êtres humains.
Situation du marché d'échange à Kinshasa. Le franc congolais relève légèrement la tête devant le dollar américain. Hier lundi matin, par exemple, chez les cambistes, un dollar américain se changeait à 1600 francs congolais pour les uns et pour les autres 1500 voire 1400 francs congolais dans la partie ouest de Kinshasa. Ce mouvement qui s'observe depuis le début du week-end passé s'est donc accéléré hier. Cette brusque appréciation de la valeur du franc congolais est diversement commentée au sein de l'opinion publique. Les Kinois sont partagés entre satisfaction et inquiétude parce que les prix des produits de première nécessité n'ont pas baissé. Notre reporter Kanish Mukongo Shambui était sur terrain pour constater, suivez son reportage.
Aucun tableau n'affiche le taux du jour. Tout se négocie de bouche à l'oreille entre les cambistes et la personne détentrice de dollars qui vient chercher le franc congolais. Et les cambistes les plus sollicités sont ceux qui proposent 15 000 francs congolais pour 10 dollars américains. Mais ce dernier était rare à rencontrer dans le quartier populaire de Kinshasa. L'un de ces cambistes qui exerce au marché de Lupin de la commune d'Engaliema, Kinshasa, explique.
Nous changeons à 15 000 francs. Hier, c'était à 19, 18, mais aujourd'hui, c'est à 15 000. Pour nous, c'est une bonne chose. Si le taux est stable, vous n'allez pas beaucoup discuter avec des clients. Ça peut descendre encore, en dessous de 14 000.
Très contente que le franc congolais relève la tête devant les dollars, cette ménagère s'inquiète du moins pour le prix des articles sur le marché.
J'ai changé à 15 000 francs congolais. Nous voulons que ça baisse encore jusqu'à 9 000 francs, mais que les autorités interpellent les opérateurs économiques pour que les prix des articles baissent sur le marché.
Pendant ce temps, les taux de change restent inchangés chez les opérateurs téléphonie cellulaire. Ainsi, 100 unités de communication coûtent toujours 2200 francs congolais pour une valeur de 1 dollar américain.
Qu'est-ce qui explique cette dégringolade du taux d'échange et quelle est la vraie parité franc-dollar à ce jour? Écoutez Jean-Louis Kayembe, directeur général de la politique monétaire et des opérations à la Banque centrale du Congo. Il était hier l'invité de l'émission Parole aux auditeurs de J.R. Lungembo.
Et le problème, c'est d'abord savoir que nous ne sommes pas dans un régime d'échange fixe où la parité est fixée par l'autorité monétaire, par la banque centrale, ce qui est le cas dans d'autres pays où il y a les régimes d'échange fixe. Nous, nous sommes dans un régime d'échange flottant, c'est-à-dire les taux de change est déterminé par les forces du marché, donc selon la loi de l'offre et de la demande. Et nous veillons, en tant qu'autorité monétaire, nous veillons tout simplement sur le fait qu'il n'y ait pas une grande fluctuation des taux sous le marché. Nous veillons à ce que la volatilité des taux ne soit pas très très importante sur le marché.
Sur le site de la Banque centrale, il est marqué 1900 francs congolais pour 1 dollar, mais à la cité, il y a une forte spéculation.
Nous sommes dans une situation de turbulence où les gens ils voient maintenant les effets des mesures prises par le gouvernement et la Banque centrale, comment ces mesures commencent à porter. Maintenant, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Mais donc, c'est une situation qui arrive généralement dans des paniques parce qu'il y avait une bulle spéculative. L'arrêt de cette bulle. Là, nous pensons d'ici 48 heures, nous observons sur le marché parce que eux-mêmes, les Tamistes, ils savent s'il y a des francs, s'il n'y a pas.
Les pétroliers du Grand Katanga ont lancé hier lundi à Lubumbashi un préavis de grève au gouvernement congolais. Ils plaident pour une nouvelle structure des prix des produits pétroliers qui tienne compte de l'évolution actuelle des paramètres de l'environnement économique national et international. Quelles pourraient être les conséquences d'une grève des pétroliers du Grand Katanga? Explication avec Jean Gandou.
Pour les pétroliers, cette situation va impacter les provinces issues de l'ancien Katanga et l'espace Grand Kasaï. Ainsi, ils accordent 72 heures au gouvernement congolais, faute de quoi ils vont déclencher un mouvement de grève, comme le dit Twite Maloba, président de la commission des hydrocarbures à la FEC au Katanga.
En l'absence de la prise en compte par le gouvernement de ces revendications, des sociétés pétrolières de la zone sud ont pris la décision de suspendre la distribution des produits pétroliers à partir de ce jeudi 6 août 2020.
Ces pétroliers voulaient engager des discussions avec le gouvernement congolais dans le respect de la procédure en la matière. Patrick Mouland, président des pétroliers et premier vice-président de la FEC au Katanga.
On était en plein confinement. Les économies européennes étaient quasi à l'arrêt. Ce qui fait que les prix ont fortement plongé pendant cette période-là. Mais ce n'est pas une situation normale. C'est une situation spéculative par rapport à la détermination de ces prix. C'est pendant ce moment-là que Madame la Ministre a pris le nouveau prix des produits pétroliers avec un baril qui était en deçà de 10 dollars. Pendant que en fin d'année passée, on avait atteint les 83 dollars le baril. Elle devrait laisser la situation passer. On était dans une forme de morosité économique qui faisait que on ne pouvait pas réviser les prix.
Notons que pour l'instant, l'essence se vend au prix de 1390 francs congolais le litre à la pompe. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Lutte contre la propagation du coronavirus au Kasaï central. L'équipe de la riposte déployée au centre d'isolement de Mbulungu en territoire de Kazumba menace de suspendre sa prestation faute de primes. Le gouverneur intérimaire appelle ses agents de santé à la patience en attendant la réponse du gouvernement central. Le point de la situation avec Blaise Ndongala Mayanda.
En mission à Mbulungu pour contenir le coronavirus, ces agents de santé disent manquer les moyens de subvenir aux besoins de leurs membres de famille restés à Kananga. Ils disent également être exposés au risque de contamination faute de matériel de protection sur ces liés. Ces agents menacent même de suspendre leurs prestations si rien n'est fait dans les jours à venir, comme indique l'un d'eux.
Comme il y avait un cas confirmé de coronavirus qui venait de Kinshasa, il fallait mettre la barrière pour que ce dernier ne puisse pas à Kananga. On a commencé à prendre en charge ce malade-là. Mais depuis que nous sommes là, depuis le les familles sont restées à Kananga et après-là, on ne le voit même pas et nous sommes exposés. Nous vivons dans des mauvaises conditions.
Contacté, le gouverneur intérimaire a rejeté la thèse des manques de kits de protection nécessitant. Il appelle ses agents à la patience en attendant la réponse du gouvernement central, surtout à la question de la prime. Ambroise Kamukuni.
Ce qu'il réclame relève du gouvernement central. Et contrairement à ce qu'ils disent à la presse, cet argent n'est jamais arrivé de ce qu'il appelle prime. Moi, j'ai fait ce que je peux faire pour que le centre d'isolement fonctionne, pour qu'on soigne les gens.
Le centre d'isolement de Mbulungu héberge une trentaine de personnes, dont des malades de la COVID-19 qui suivent les soins de Kananga. Blaise Ndongala, Mayanda, Radio Okapi.
C'est la saison des fruits et légumes. Il faut donc en profiter au maximum pour équilibrer son alimentation et fortifier son immunité dans ce contexte de la maladie à coronavirus. C'est un appel du président de la Société congolaise de nutrition et d'alimentation, le médecin épidémiologiste nutritionnel, Dr Danny Badila. Je vous propose de suivre les recommandations de Dr Badila au téléphone d'Honoré Missenga Kalala.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le coronavirus est une maladie virale qui vient justement désorganiser le système immunitaire. Vous avez entendu dire que les victimes sont souvent ceux qui ont eu certaines maladies préexistantes. Donc ils ont un problème de système immunitaire et donc la nutrition nous aide dans ces cas à renforcer notre système immunitaire pour résister contre le virus. Donc l'alimentation trouve ici sa place et les fruits et légumes sont donc des éléments très importants, surtout en ces moments de coronavirus. Toute personne devra donc faire un effort d'en apporter tous les jours au moins. Et ça c'est important. Actuellement nous avons les oranges qui sont là, nous avons certaines pommes, nous avons les bananes qui sont à tout moment. Donc c'est question de faire un bon planning de la journée et on peut en avoir à un minimum de 1000 francs.
Actualité internationale.
Les 11 occupants d'un avion de l'ONU ont été blessés lundi, dont un grièvement lors d'un atterrissage difficile à l'aéroport de Gao, dans les territoires du Mali, a indiqué dans un communiqué la mission des Nations Unies au Mali. L'appareil en provenance de Bamako avait à son bord 4 passagers, tous membres des personnels des Nations Unies et 7 membres d'équipage, selon la MINUSMA. Le parquet algérien a réclamé 4 ans de prison ferme contre le journaliste indépendant Khaled Darini, devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, et ses 2 co-accusés, dont le procès s'est ouvert lundi à Alger. Âgé de 40 ans, Darini dirige le site d'information en ligne Kasbah Tribune et travaille comme correspondant en Algérie de la chaîne de télévision française TV5 Monde et de RSF. Il est accusé d'incitation à un attroupement non armé et d'atteinte à l'intégrité du territoire national.
L'invité.
Au Kasaï, le gouvernement provincial a lancé un projet d'encadrement des jeunes filles en divers métiers. Invitée de Radio Capi, Madame Pauline Mbidi, la ministre provinciale du genre et famille, explique que les bénéficiaires de ce projet vont apprendre notamment la coupe et couture, la fabrication des savons et du pain. Le but est de permettre aux apprenants d'accéder à l'autonomie financière. Madame Pauline Mbidi s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame la Ministre.
Bonjour Maître National.
Quelles sont les actions que vous menez au gouvernement du Kasaï pour justement décourager les cas de viol?
Oui. Au gouvernement du Kasaï, j'ai initié un petit projet d'encadrement de filles mères et de filles des effrayés qui soient encadrées pour que ces filles ne soient pas exposées aux violences sexuelles. Nous voulons nécessairement que la fille soit responsable. La fille de 12 ans, 13 ans, 14 ans jusqu'à 17 ans, cette fille doit nécessairement être encadrée. Et l'encadrement doit se passer progressivement. C'est pourquoi j'ai initié ce projet qu'on a commencé même à encadrer les filles des effrayés à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans jusqu'à 17 ans. Et je pense que ces filles n'auront pas le temps d'être dans des coins, dans des rues, aller de gauche à droite. Et bien qu'on vient de déconfiner, mais nous voulons nécessairement les encadrer au niveau de cette province du Kasaï.
En quoi consiste ce projet, Madame la Ministre?
Oui, le projet consiste en l'encadrement des jeunes, une fille, des filles des effrayés. Après avoir les encadrés, la fille de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, elle sera capable de coudre, d'utiliser la machine à coudre, elle sera capable de fabriquer des savons, elle n'aura pas à penser que non, je dois aller voir un tel monsieur qui m'a appelé, un tel garçon m'a appelé, non. Puisqu'elle sera chaque fois occupée. Nous les occupons de 8h jusqu'à midi, il y a 2 gants, les autres viennent à partir de 13h jusqu'à 16h. Et il y a vraiment des tépés, les travaux pratiques qu'on doit leur initier à faire à la maison. Vous voyez qu'avec ça, la fille n'a pas le temps de penser que non, il y a tel qui m'a écrit un petit message dans mon téléphone. Nous voulons vraiment faire ça pour arriver vraiment à un bon résultat, que la fille puisse être vraiment responsable et en train d'évoluer, en train de croître, de grandir, qu'elle sache que non, je ne dois pas être là uniquement qu'on m'appelle de gauche à droite auprès des garçons, mais je dois apprendre un métier.
Ce projet vise à environ combien de filles?
Le projet vise au moins 100 filles, mais ça sera mis. Nous allons aussi recruter quelques garçons qui seront là pour apprendre aussi le métier.
Vous menez ce projet à Chikapa. Est-ce que pensez-vous aussi l'étendre à travers tout le reste de la province dans les territoires?
Je fais ce plaidoyer que ce projet soit vraiment partout dans nos territoires. Nous sommes en train d'y aller progressivement pour qu'on puisse atteindre aussi quelques territoires. Comme ça, ça sera en marche, les filles qui sont de gauche à droite, puisque ce n'est pas nécessairement la vie de Chikapa. Nous devons aller à Mweka, nous devons aller à Ilebo, nous devons aller partout à Luebo, nous devons aller à Bekese avec ce projet.
Le gouvernement provincial du Kasaï bénéficie-t-il de l'appui de certains partenaires dans la mise en œuvre de ces projets?
Nous sommes qu'au début. Le premier contrat est pour 3 mois. Nous n'avons pas encore bénéficié un appui non plus. Il y a un petit lien que UNICEF est en train d'appuyer à travers le l'ONG Eglon. Il est en train d'appuyer ce petit projet. À la longue, je pense que je vais quand même faire le plaidoyer auprès des partenaires qui peuvent nous appuyer.
Madame la Ministre, merci d'avoir répondu aux questions de Radio Capi.
Oui, c'est trop que je remercie.
Ce journal s'achève par ici. Merci à tous de l'avoir suivi. Axel Ngoncho l'a supervisé. Noëlla Luzitu Kabambi l'a coordonné. Willem Lungamba l'a mise en onde. Je me nomme Nico Kalambay. Merci à tous de passer une excellente journée de mardi sur Okapi Radio.